Bienvenue sur cette vidéo de psycho-astrologie au cours de laquelle je vais vous parler des relations entre le mois du Capricorne, la période qui va du 23 décembre au 20 janvier, et les événements, les célébrations, les fêtes que l'on trouve durant ce mois. Cette vidéo fait suite à celle que j'avais réalisée sur le mois du Scorpion et les fêtes telles que Halloween et Samhain. Et je trouvais intéressant d'aborder les qualités, les thématiques d'un signe astrologique en rapport avec les événements passés, présents, qui se déroulent pendant cette période de l'année. Nous allons voir, comme pour le Capricorne, que les thématiques du Capricorne vont ressortir à travers les célébrations que l'on va y retrouver. Donc quand on dit la période du 23 décembre au 20 janvier, on pense surtout à Noël, mais il n'y a pas que cette fête-là qui est célébrée durant cette période de fin d'année et de début de nouvelle année. En fait, pour tout dire, quand nous rentrons le 23 décembre dans le mois du Capricorne, donc déjà nous avons passé le solstice d'hiver, donc qui a eu lieu le 21 décembre, et nous sommes sur la période la plus sombre de l'année. Les nuits sont plus longues que les jours et l'obscurité règne. Même durant la journée, la luminosité est souvent assez faible. Il peut y avoir du brouillard, il fait souvent gris. Donc, on n'est pas dans une période de l'année où la lumière règne. Au contraire, on est plutôt dans une période où on a l'impression quasiment qu'il va faire nuit tout le temps. En tout cas, que l'obscurité demeure. Et pourtant, le mois du Capricorne a cette thématique de la lumière qui ressort essentiellement. Et avec cette thématique de la lumière, il y a aussi celle de l'espoir, qui est l'espoir justement du retour de la lumière. Et en attendant que le soleil brille davantage, en attendant que la lumière extérieure réapparaisse, eh bien on va tout illuminer. Pendant le mois du Capricorne, on va mettre de la lumière partout, dans nos maisons, dans nos rues, dans nos villes et dans nos villages. On va aussi tirer des feux d'artifice au moment de la nouvelle année. Et donc, on est vraiment dans cette recherche de lumière et d'espoir qui peut nous manquer pendant cette période assez obscure. Les thèmes que je vais donc aborder sur cette vidéo sont celles de la saison du mois du Capricorne, quelles sont les grandes fêtes dont je vais vous parler. Je ne vais pas toutes les nommer, il y en a beaucoup. Je vais également vous parler donc des thématiques du mois du Capricorne. C'est quoi le signe du Capricorne en termes de qualité, d'ambiance, d'énergie? Et donc, je vais détailler quelques festivités, événements que j'aurais choisis pour justement faire la relation entre ces fêtes annuelles qui se déroulent pendant le mois du Capricorne et ce signe de terre. Donc, allons-y pour la période de l'année qui va donc du 23 décembre au 20 janvier. Donc, les grandes fêtes que l'on va trouver dans cette période-là, alors je parle de fêtes mondiales, je ne m'arrête pas à l'Europe ou encore moins à la France. Donc, évidemment, c'est Noël, 24-25 décembre. C'est le Nouvel An, hein, entre le 31 décembre et le 1er janvier, on change d'année. Et puis, au niveau du passé, nos fêtes s'appuient sur les anciennes fêtes. Donc je vais vous parler des Saturnales. Donc vous l'entendez, dans Saturnale il y a Saturne. Donc c'est la fête que les Romains célébraient au moment du passage du solstice d'hiver. Elle va s'étaler sur plusieurs jours, je vais vous en parler par la suite, et elle est en lien avec le dieu Saturne. Je vais vous parler aussi de Makar Sankranti ou Pongal, qui est une grande fête indienne. Il est intéressant aussi de remarquer que Makar ou Makara est la traduction, ou en tout cas signifie Capricorne. Donc il y a une relation forte entre le signe du Capricorne et cette grande fête. Et j'avais envie aussi de vous parler de Osoji, qui n'est pas une fête à proprement parler, qui est plutôt un rituel de passage qui se fait au Japon sur plusieurs jours à la fin de l'année, afin de se préparer à la nouvelle année. Donc tout ça, en fait, va nous parler du Capricorne et de ce que c'est aussi que d'être Capricorne ou de ce que l'on peut soi-même faire durant le mois du Capricorne pour être, si je puis dire, en harmonie avec non seulement ce signe, mais aussi un peu avec les grandes lois cosmiques, voire les lois divines, et donc voilà, s'harmoniser avec l'univers et le zodiaque. Donc, les thématiques du mois du Capricorne, alors j'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais classiquement, c'est la période et c'est le signe qui nous parle de la fin d'un cycle et du début d'un nouveau. Le Capricorne est donc à cheval sur une année qui se termine et une nouvelle qui commence. Donc, il évoque la fin d'un cycle, la fin d'expériences vécues, la fin d'activités ou d'affaires réalisées. Et donc, l'entre-deux avant le démarrage d'un nouveau cycle où on va repartir sur de nouvelles bases. La fin d'un cycle va s'accompagner de plusieurs qualités, l'essentiel étant la gratitude, c'est-à-dire pouvoir dire merci pour tout ce qui a pu être vécu de positif, de porteur, d'intéressant, tout ce qui a été reçu pendant cette année-là. Mais également, avec le début d'un nouveau cycle, on a aussi l'espoir d'un nouveau départ, l'espoir d'une nouvelle année qui va commencer, on l'espère, sous les meilleurs auspices possibles. Donc, ce sont vraiment deux grandes thématiques du mois du Capricorne. Après, il y a plein d'autres qualités qui vont avec ce mois-là. Et on va voir aussi qu'il y a une relation forte avec la planète Saturne, qui est la planète donc qui gouverne le Capricorne. Le thème du mois du Capricorne est avant tout, comme je le disais, celui de la lumière qui l'emporte sur les ténèbres. Alors que nous sommes dans l'obscurité, alors que les nuits sont les plus longues, il existe cet espoir du retour de la lumière. Et cette lumière, elle n'est pas qu'extérieure, elle n'est pas que celle du soleil ou celle des guirlandes, des bougies, du feu de cheminée que l'on peut allumer. C'est également la lumière qui est présente en nous, c'est la lumière de l'espoir, c'est la lumière du cœur. Et donc, on célèbre un peu toutes les lumières. C'est aussi au niveau spirituel et au niveau, on va dire, un peu chrétien, la lumière du Christ. Mais c'est également la lumière de toutes ces belles qualités que porte l'humanité et qui va pouvoir être évoquée pendant ce mois du Capricorne, que l'on va chercher justement à activer, d'autant plus que, encore une fois, la lumière extérieure est nettement faible. Commençons par les Saturnales, qui étaient donc la grande fête de la Rome antique, avant même l'arrivée du christianisme, et qui donc se déroulait pendant le solstice d'hiver, sur une semaine. Ça a commencé vers le 15 décembre et ça terminait au 23. Et donc, c'était la période où, dans l'Antiquité romaine, on célébrait le dieu Saturne. Et il y avait un événement très intéressant qui se produisait pendant cette période-là. C'était l'abolition des barrières sociales. Donc à l'époque, il y avait des maîtres, il y avait des esclaves. Et pendant cette semaine, c'est comme si, en fait c'est ce qui se passait, hein, les rôles étaient inversés. C'est-à-dire que les esclaves se faisaient servir par les maîtres et ils avaient droit de s'exprimer librement. Ils pouvaient critiquer leurs maîtres, pointer leurs défauts. Et donc, voilà, on est dans une inversion de rôle. Et je trouve ça particulièrement intéressant dans le sens où moi je le mets en rapport avec le rôle de planète karmique de Saturne, à savoir que si on adhère au principe de la réincarnation, on peut penser que celui qui a été le maître dans une vie va devenir l'esclave dans une prochaine, surtout s'il a maltraité ses esclaves, tandis que l'esclave pourra dans une autre vie devenir un maître. Et avec Saturne, et les Saturnales, on a cet inversement des rôles, on a un peu cette rétribution karmique qui fait que voilà, on peut passer de l'un à l'autre et que ce qui est une vie en fait, c'est qu'un passage dans la panel de vie que l'on peut avoir au cours de nos différentes incarnations et que selon comment on traite les uns les autres, nous-mêmes aussi, eh bien dans notre prochaine existence, nous pourrons être traités de la même façon. Donc attention à nos rôles, puisqu'effectivement, il peut y avoir une rétribution, il peut y avoir un retour, il peut y avoir un effet miroir. C'était une période, les Saturnales, où on décorait les habitations, comme on le fait actuellement. À l'époque, c'était donc beaucoup de bougies, du lierre et du houx, sachant que le houx avait un rôle de protection, notamment contre la foudre. Il y avait du gui aussi qui était mis en décoration, notamment accroché à l'entrée des maisons. Le gui évoque la paix à l'époque pour les Romains et l'hospitalité, hein, c'est pour ça qu'il était accroché aux entrées, façon de dire bienvenue, et le laurier qui est un autre symbole également de paix. Et déjà à l'époque, il y avait la décoration d'un arbre, un épicéa, qui symbolise, parce que c'est un arbre à feuilles persistantes, hein, comme les sapins, qui symbolise effectivement la vie qui en fait ne peut pas réellement être vaincue, hein, puisque donc ce sont des arbres qui restent verts toute l'année. Donc il y a un aspect un peu vie éternelle. et ils étaient décorés de fruits et de blé hein, pendant cette période de l'année dans la Rome antique. Il y avait aussi, comme à présent, même si encore une fois la forme a changé, hein, la fabrication et l'offrande de petits cadeaux, notamment aux enfants qui n'avaient pas école à cette époque-là, et enfin le travail même était arrêté hein, sur cette période-là. Et donc effectivement, il y avait distribution de petits cadeaux et on faisait des grands repas comme on fait aussi de nos jours sur cette période-là. Donc là, on est un peu sur la période qui va avant le mois du Capricorne et qui est à l'amorce hein, de ce mois-là, qui annonce et qui donc célèbre aussi le dieu Saturne. Vient se rajouter à partir du 3e siècle la fête de Sol Invictus qui représente le soleil invaincu. Et donc, si on avait déjà les bougies qui étaient allumées pendant la période des Saturnales, là on a carrément la célébration du soleil et du soleil invaincu. C'est l'idée que le 25 décembre, qui donc devient le jour du soleil invaincu, et ça veut dire qu'il y a les Saturnales et ensuite il y a la période, la fête de Sol Invictus. On a cette célébration de la lumière et du soleil. Et donc, alors que la Rome va se christianiser, donc on est après le 3e siècle, ben, ce culte de Sol Invictus va disparaître. Il était surtout célébré par les militaires pour être remplacé par la célébration de la naissance de Jésus de Nazareth, comme on célèbre actuellement, en tout cas pour les plus chrétiens et les plus catholiques, avec la crèche notamment. Donc voilà, donc ça c'était vraiment à la Rome antique. Et donc comme on le voit, on a des thèmes qui sont aussi récurrents et qui existent encore à présent. Et on a les thèmes de paix, de lumière, d'hospitalité, de convivialité, de partage. On est un peu sur aussi des notions entre guillemets de gentillesse ou de bienveillance. On est bienveillant durant cette période de l'année. L'accent est mis sur le fait d'être bon avec son voisin. Et ensuite arrive Noël, donc plus tard dans le temps. Donc Noël, ça vient du latin, ça veut dire natalis dies, qui a en fait deux façons d'être traduite. Soit on peut le traduire par le jour de la naissance, et donc ça renvoie au jour de la naissance de Jésus. Ou c'est la naissance du jour, et dans ces cas-là, ça annonce le retour de la lumière. On est sur la période entre le 21 et le 26 décembre, c'est la période la plus sombre de l'année. Et à partir du 25-26 décembre, on commence petit à petit à regagner un petit peu en luminosité. Ça ne se voit pas encore. Il va falloir plutôt attendre fin janvier, voire début février. Mais néanmoins, là, les journées commencent à rallonger. Noël est connu comme étant une période de paix, c'est-à-dire que même quand il y a des guerres, ce qui a été le cas en 14-18 notamment, il peut y avoir des moments de trêve durant Noël. Donc il y a ce symbole de paix, de joie, de partage, d'espérance, de lumière. Encore une fois, c'est vraiment une thématique qui est très présente. Et on peut aussi noter la dimension, enfin l'importance des enfants, hein. C'est vraiment une fête qui met les enfants à l'honneur. Et ceux-ci, on va dire, peuvent représenter l'innocence. Noël évoque souvent la magie, la féerie, c'est à l'image d'un paradis qu'on a perdu et qu'on retrouve pendant cette période-là. Et on pourrait dire que les enfants symbolisent un peu Adam et Ève avant le péché originel. Et donc cette innocence que on pouvait avoir lorsque l'on était encore au paradis, avant d'être venu en incarnation et d'avoir voilà, commis le péché originel. Noël est vraiment marqué par des rites, des rituels, mais aussi par des couleurs. Il y a vraiment des couleurs un peu clés qui ressortent. On va penser au vert, notamment, avec le sapin. Et il se trouve que le vert, c'est la couleur de la planète Saturne. C'est aussi la vie, mais la vie, on va dire, surtout au niveau du règne végétal, hein, puisque c'est la dominante de la nature du règne végétal, cette couleur. Alors que nous avons le rouge aussi, qui est une deuxième couleur très importante de Noël, et qui, elle, peut être aussi associée à la vie, mais plus pour le coup à la vie humaine avec le sang, hein, qui est symbole de vie, de vitalité, donc le rouge qui symbolise aussi le sang du Christ. Et c'est aussi un symbole du feu spirituel, hein, le rouge est associé au feu. Donc on a la vie sous différentes formes, on a la vie du végétal et la vie de la nature, on a la vie humaine avec le rouge, avec le sang, mais on a aussi le feu spirituel. Et on a une troisième couleur, le doré, qui elle représente vraiment la lumière, mais aussi l'or et la richesse, une certaine forme d'abondance, et qui peut renvoyer toujours à la vie, mais cette fois à la vie au niveau cosmique, au niveau vraiment la vie la plus élevée qui soit possible d'imaginer. Donc on a cette dimension de vie, d'espoir, de lumière qui est donc très présente, y compris dans les couleurs qui sont donc évoquées pendant la période de Noël. On a non seulement le rouge des boules qui était traditionnellement la couleur de la décoration des boules de Noël, mais on a aussi des plantes comme le poinsettia, si je ne dis pas de bêtises, qui effectivement a cette particularité d'avoir ses feuilles qui deviennent rouges sur la saison froide et qui est souvent aussi associée à la période de Noël. Donc voilà, trois couleurs qui représentent Noël, dont une est vraiment directement associée à Saturne. Donc c'est intéressant aussi de faire ce lien. Et puis, dans les traditions de Noël, on va penser à l'arbre de Noël, au sapin. Il renvoie à l'arbre de vie du jardin d'Éden. Donc, il est porteur d'espoir parce que donc il rapproche de cette période, encore une fois, du paradis perdu. Il rapproche des grandes lois spirituelles, divines, de la loi cosmique. Et c'est intéressant aussi de voir qu'il est surmonté d'une étoile, qui est l'étoile qui représente l'étoile de Bethléem, qui a annoncé la naissance du Christ et a guidé les rois mages jusqu'à lui. À l'époque du Moyen-Âge, avant d'être décoré comme il est décoré actuellement, le sapin était orné de fleurs en papier, de fruits frais, comme au temps un peu de la Rome antique, de fruits frais et de fruits secs. Et il avait également des symboles comme ça d'abondance qui pouvaient l'orner pendant le Moyen-Âge. Après, il fut décoré par des bougies, mais bon, maintenant on a remplacé avec l'électricité, évidemment, on a remplacé les bougies par l'électricité, donc les guirlandes électriques, mais on est toujours sur cette dimension de lumière qui est introduite dans l'habitation. Chez les Celtes, le sapin est considéré comme l'arbre de l'enfantement, donc on est aussi sur cette dimension de naissance, de renaissance pendant ce cycle du Capricorne. On a les bougies, donc qui sont très présentes à Noël. Souvent, on aime allumer des bougies pendant cette période de l'année. On a un cierge aussi spécifique pour Noël. Alors, on n'a pas tous le cierge de Noël, mais n'empêche, il y a une tradition aussi de Noël. Donc là, on est vraiment sur un symbole évident de la lumière. Et on a toujours, on n'a pas perdu, depuis les Saturnales et depuis la Rome antique, le gui et le hou. Alors peut-être que leur symbolique a un peu évolué, mais on a quand même, on aime bien orner aussi la maison avec une branche de gui. Donc là, c'est le côté un petit peu romantique qui est lié plus à l'amour, mais aussi quand même de protection. Que ce soit le gui et le hou, ils sont reconnus comme des plantes qui protègent l'habitation, qui protègent les personnes, protègent de la maladie, protègent peut-être aussi des catastrophes ou de différents problèmes. Et le gui est aussi reconnu comme ayant un pouvoir de guérison, de protection et pouvant servir aussi à attirer l'abondance. Autre tradition, la fameuse bûche de Noël. Donc à l'époque, avant que ce soit un dessert, c'était une vraie bûche que les convives apportaient pour le repas de Noël et qui servait donc à alimenter le foyer. Donc là, on retrouve cette symbole de lumière, de feu, mais aussi de partage. Les convives arrivaient avec leur bûche et de chaleur humaine aussi, puisque donc on se retrouvait autour de la table pour pouvoir partager un repas et célébrer cette fête comme on continue à le faire. Et toujours les cadeaux, ça c'est voilà, ça n'a pas en soi ça n'a pas changé. Après, c'est ce qu'on offre à Noël qui a changé. Avant, on offrait souvent, on était plus simple dans nos cadeaux avec la fameuse orange qui était offerte à Noël et qui symbolisait aussi le soleil. C'était pas uniquement parce que c'était un fruit de saison, mais c'est aussi parce que voilà, sa forme, sa couleur évoque le soleil. Depuis, ça a été avec la société de consommation, ça a été remplacé par bien d'autres jouets, jeux et cadeaux divers. Mais n'empêche que voilà, depuis l'Antiquité, sur cette période-là, on offre des cadeaux. Et on a eu l'apparition du Père Noël qui a été inspiré par la figure de Saint Nicolas et qui s'est transformé à travers tout son voyage par les États-Unis. Il nous est revenu sous la figure du Père Noël. Et puis, parmi les autres traditions et symboles de Noël, il y a la crèche, donc qui est l'un des symboles les plus importants pour les catholiques sur cette période-là. Et donc, ben, notamment dans le sud de la France, voilà, il est assez classique de faire la crèche avec le petit Jésus qui sera mis au moment de sa naissance, donc dans la nuit du 24 au 25 décembre. Et les rois mages qui apparaîtront, eux, le 6 janvier pour l'épiphanie. Donc voilà. Donc ça, c'est Noël avec encore une fois des symboles qui sont vraiment, selon moi, à rapprocher du Capricorne, à rapprocher de Saturne et qui peuvent nous aider à décoder et à comprendre ce signe de terre d'une autre façon. Donc voilà, si vous êtes du signe du Capricorne, peut-être qu'il y a dans ces symboliques, dans ces traditions, des éléments qui peuvent vous parler, qui peuvent vous porter, qui peuvent vous inspirer, ou si vous avez des planètes aussi marquantes en Capricorne. Et sinon, bah, c'est de voilà, quand on traverse le mois du Capricorne, comment est-ce qu'on peut vivre cette fête-là, dans quel état d'esprit on peut se mettre pour se connecter à cette énergie Capricorne. Makar Sankranti, Makar ou Makara, qui est donc appelée aussi Pongal ou la fête des moissons, qui est une fête qui se déroule au moment du Nouvel An indien, selon le calendrier tamoul, donc qui est décalé par rapport au nôtre. C'est en fonction du zodiaque sidéral et qui, en fait, bon, c'est sur les dates du 14 ou 15 janvier, correspond au moment où le soleil rentre en Capricorne. D'où aussi ce nom Makar Makara, Capricorne. Donc, c'est une fête de 4 jours qui est fêtée en l'honneur du dieu soleil, Surya. Donc, c'est en lien avec le Capricorne, mais c'est aussi toujours en lien avec la lumière. Comme quoi, c'est intéressant de voir que le Capricorne a un lien vraiment particulier avec la lumière et tout ce qu'elle symbolise. Donc, Makar Sankranti, c'est la plus grande fête tamoule, et elle se divise en 4 jours de fête. Le premier jour, Bongi, on va allumer des grands feux, on va y brûler en dehors des bûches, tout ce qui peut être aussi fourniture en bois de la maison qui ne sert plus. Donc il y a une espèce de nettoyage, si je puis dire. On peut aussi y brûler des vieux vêtements. Donc on se défait, hein, on se débarrasse de ce dont on va plus servir pour la nouvelle année. Et puis c'est une période, le premier jour, où souvent ben, on nettoie la maison et on remercie la pluie et on offre des cadeaux toujours aux enfants. Là ça va être notamment des fruits ou de l'argent. Et donc c'est le passage, enfin c'est cette fête qui marque le début d'une nouvelle vie. Et donc on commence par se débarrasser de ce qui appartenait à l'ancienne vie. On termine un cycle, on le conclut. Et ça c'est très intéressant par rapport au Capricorne et sa symbolique du fait effectivement que avant de commencer quelque chose de nouveau, il faut déjà avoir terminé ce qui est du cycle passé. Donc ça c'est voilà, c'est intéressant. Et ça nous dit qu'effectivement, il y a des temps justes pour chaque chose. Deuxième jour, Sankranti. Donc là, c'est vraiment la fête qui est dédiée au soleil, à Surya, où là, on va préparer des plats, on va aller rendre visite aux proches, que ce soit la famille, les voisins, et on va échanger des vœux. On va se souhaiter de bonnes et de belles choses pour cette nouvelle année. Il est aussi assez commun d'aller se baigner, c'est un rituel de purification, dans des rivières et des lacs sacrés. Et là, voilà, on remercie le soleil, on remercie Surya, on attend son retour avec impatience. Troisième jour, Kanuma, là, cette fois, on rend grâce aux vaches et aux buffles. Donc, on est vraiment dans la gratitude avec Makar Sankranti. Et les vaches, bon, alors voilà, c'est symbole aussi du Capricorne, hein, voilà, vaches, buffles, on est pas loin de cet animal qui est le Capricorne. Donc, on leur rend grâce, on les remercie, on va les décorer, on va les peindre, on va les habiller, on va les célébrer. Et donc, voilà, on leur offre aussi un repas spécial. C'est une façon, à mon avis, détournée de célébrer le Capricorne lui-même, quelque part, hein, de remercier ce signe du zodiaque d'exister et ce qu'il nous apporte. Quatrième jour, Mukanuma. Là, on va décorer les maisons et puis on va se retrouver encore pour des repas, on va faire des réunions de famille, c'est un moment de détente, de pique-nique. Et tout au long de ces 4 jours, les hindous ont tendance aussi à utiliser beaucoup le cerf-volant. C'est quelque chose de très festif. Et puis, il y a à mon avis, ce lien, cette symbolique entre le ciel et la terre, puisque donc le cerf-volant, son objectif, c'est quelque part de voler le plus haut, mais tout en étant rattaché quand même à la terre. Il y a une ficelle, hein, qui le maintient. Donc on est voilà sur une symbolique aussi qui se retraduit à travers cette activité que qui est de bah, de s'amuser si je puis dire avec avec des cerfs-volants. Donc voilà pour Makar Sankranti. Et donc je voulais aussi vous parler de Osoji qui se fête donc au Japon depuis aussi très 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 longtemps. Donc là on revient un peu en arrière, on revient sur les derniers jours de décembre, donc on est bien dans le mois du Capricorne. Et en fait, avant de commencer la nouvelle année, on a ce rituel au Japon de grand nettoyage des lieux de vie. Alors, c'est vraiment très large parce que ce n'est pas seulement l'habitation, c'est aussi les écoles et tous les établissements scolaires, c'est les entreprises, c'est les magasins. Donc, c'est vraiment les lieux de vie, ça peut être les rues aussi qui sont nettoyées. Et donc, voilà, on est vraiment dans l'idée que il faut se purifier, il faut nettoyer avant de commencer la nouvelle année. On ne peut accueillir la nouvelle année que si on s'est libéré des faits de ce qui, ben, de ce qui étaient les conséquences de l'ancienne année. Et ça, je pense que c'est aussi très saturnien, très lié au karma, hein, l'idée que voilà, le plus on se défait de ce qui appartient au passé, le plus on peut commencer quelque chose de nouveau, un nouveau cycle, avec une plus grande liberté, avec une plus grande disponibilité pour accueillir l'abondance. On ne peut accueillir l'abondance que si, voilà, on s'est défait du passé. C'est pour ça aussi que c'est une période pour les Japonais où c'est vraiment important de conclure les affaires qui sont en cours et de régler des dettes. Donc là, c'est vraiment très karmique, hein. On règle nos dettes avant de pouvoir, encore une fois, démarrer sur de nouvelles bases. Si on accumule les dettes et qu'on commence quelque chose de nouveau alors qu'on a encore des dettes en cours, ben voilà, c'est faussé, c'est biaisé, c'est plombant. Et donc voilà, on est sur ces symboliques-là, encore une fois, qui pour moi sont vraiment à mettre en lien avec le Capricorne et sa planète, donc Saturne. C'est aussi la période où donc, une fois le grand ménage de fait, on va décorer pour accueillir la nouvelle année. Bien souvent dans les maisons japonaises, mais pas toutes, enfin, il y a souvent une alcôve qui est destinée à déposer des offrandes, donc qui peuvent être déposées toute l'année. Et donc là, c'est la période où on va en déposer des spécifiques pour accueillir la nouvelle année. Et on va retrouver le symbole de l'orange avec, chez les Japonais, une orange amère qui est donc voilà déposée. Elle peut être aussi un petit peu décorée. Et donc elle est déposée dans cette alcôve, entre autres, hein, ben, on peut peut-être aussi y trouver de l'encens ou voilà d'autres célébrations, d'autres offrandes pour accueillir la nouvelle année. Il est dit que le rêve qui est fait dans la nuit du 2 au 3 janvier est un rêve prémonitoire ou en tout cas peut donner des prédictions sur l'année à venir. Il est particulièrement positif de rêver par exemple, alors au Japon évidemment, hein, du Mont Fuji ou d'une grue. C'est des symboles forts, des symboles très positifs. Donc voilà, faites attention à vos rêves dans la nuit du 2 au 3 janvier, si ce sont des rêves qui vous semblent être de bons auspices pour l'année à venir. Donc voilà, je voulais faire ressortir le Japon et aussi l'Inde parce qu'ils ont des traditions fortes, des cultures, des rites qui sont très présents, mais aussi parce que ce sont deux pays qui sont gouvernés par le signe du Capricorne, c'est-à-dire qu'ils sont Capricornes, hein, que ce soit le peuple japonais ou le peuple indien. Et donc, ils nous parlent aussi de ces qualités, de cette énergie Capricorne à travers leurs rituels, à travers leur psychologie, à travers leurs caractéristiques. Donc, c'est aussi intéressant de, voilà, de creuser un peu ces cultures-là quand on cherche à comprendre ce qu'est le Capricorne. Autre fête qui va se faire sur cette période du mois du Capricorne, eh ben, Épiphanie. Hein, alors, évidemment, il y a la nouvelle année avec ses feux d'artifice et donc toutes ces célébrations. Donc là, on est sur le passage d'une année à l'autre. On commence sur de nouveaux départs et puis arrive le 6 janvier, l'Épiphanie, où là, on célèbre la visite des trois rois mages qui sont donc venus rendre hommage au Messie qui vient de naître. Et donc, on a la galette des rois. Alors ça, c'est plus dans le nord de la France ou au-dessus de, je crois que c'est à partir de Lyon et au-dessus. Dans le sud, on a plutôt le gâteau des rois. Et la galette est un symbole aussi du soleil. Et donc, la couronne renvoie au roi mage. Mais voilà, on a ce soleil, cette lumière qui est omniprésente. Donc voilà, tout ça pour dire que encore une fois, retenez du Capricorne que c'est un signe qui est un signe qui permet une transition, qui permet un passage entre un cycle qui se termine et un nouveau qui commence. Ce qui fait aussi souvent des personnes qui sont du signe du Capricorne ou qui ont des planètes fortes en Capricorne, et c'est valable aussi avec la maison 10 qui est la maison gouvernée par le signe du Capricorne, des personnes qui sont dans une forme de transmission, Donc là, on a vu beaucoup de cadeaux, beaucoup d'offrandes qui sont faites sur cette période du mois du Capricorne. Et la transmission, c'est aussi un don. C'est le don de soi, c'est le don de compétences, de qualités, de capacités, d'une expérience, de son temps, de son intelligence. Et donc, il y a chez le Capricorne une vraie capacité à donner et à donner le meilleur. Il a fait la synthèse de tout ce qu'il a pu accumuler, comme on fait la synthèse à la fin d'une année, et on va pouvoir transmettre, offrir, et en même temps se préparer à accueillir une nouvelle vie, une vie supérieure, un nouveau cycle qui va démarrer. Donc pour bien fêter le mois du Capricorne, soyons dans le don, la générosité, préparons-nous à accueillir cette année-là, et donc, tu rends aussi un petit peu un trait hein, par rapport à cette année qui se termine, voire allons plus loin. Le karma, c'est aussi ça. Faisons un point sur nos dettes peut-être physiques, matérielles, nos dettes aussi karmiques, où est-ce qu'on en est. Et s'il y a des choses en cours qui demandent à être réglées, ben, il vaut mieux s'en débarrasser, si je puis dire, sur cette période, que d'attendre que la nouvelle année commence et qu'on ait encore ces bagages-là qui soient présents. Donc ça peut être des moments de réalignement, de réajustement, des moments aussi où on va peut-être dire des choses pour poser et pour pouvoir aussi, encore une fois, se libérer et être plus dans l'axe. Et donc être dans une forme aussi d'authenticité, de sincérité, d'honnêteté. Voilà, c'est ce que je tenais à vous dire et à vous présenter sur cette vidéo consacrée au mois du Capricorne. Eh ben, j'en profite pour vous souhaiter de très bonnes fêtes et dans la prochaine vidéo de cette série, je vous parlerai de la relation entre le signe du Verseau, l'énergie Verseau, et la Saint-Valentin, éventuellement d'autres fêtes qui sont célébrées pendant cette période-là. Il va falloir que je creuse un petit peu la question. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. À bientôt.